Bonjour à tous nos auditrices et auditeurs des Neveux de René, une émission consacrée à la découverte de la philosophie. Alors, pour cette émission spéciale, je vous propose un entretien. Cet entretien a eu lieu fin 2018 dans la maison Auguste Comte à Paris. Alors Auguste Comte est un grand philosophe du 19e siècle dont nous n'avons pas encore eu beaucoup l'occasion de parler au neveu de René, mais il faudra qu'on y revienne. Et je dois dire que nous avons eu la chance de se retrouver avec de nombreuses personnes, dont mon ancien professeur de philosophie François Vezin, pour la parution d'un livre de texte sur la musique. Et j'ai profité de cette réunion pour interviewer un ami qui s'appelle Vincent Josse. Vincent Josse est professeur de mathématiques à Paris et quelqu'un qui est un très très bon lecteur de philosophie, quelqu'un qui a même hésité à faire de son métier l'enseignement de la philosophie, mais c'est une personne qui travaille très régulièrement sur la philosophie. Et donc c'était l'occasion de questionner Vincent Josse sur les rapports qu'entretiennent mathématiques et philosophie.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, dans l'entretien que vous allez entendre, Vincent Josse va sortir des sentiers battus et notamment utiliser des termes qui ne sont pas d'usage courant, des termes philosophiques. Parmi ces termes, le terme « d'étang ». « Étang » désigne tout ce qui est. Hein. On n'a pas l'habitude d'entendre le mot « étang », il ne faut pas l'entendre « étang », l'étang E-T-A-N-G, là où il y a l'eau. Étang, c'est vraiment tout ce qui est. Un stylo, c'est de l'étang. Un nombre, c'est de l'étang. Alors, Dieu lui-même est un étang. C'est l'étang suprême dans la philosophie. Mais il faut vraiment entendre étang comme tout ce qui est. Et on peut voir la philosophie comme un questionnement sur l'étang. Évidemment, il y a un philosophe qui a donné un sens très, très, très profond à ce mot d'étang, ou très précis, on va lui dire, c'est Martin Heidegger. Parce que chez Heidegger, il y a une opposition entre l'étang, donc tout ce qui est, et l'être. L'être, c'est ce qui se tient en retrait de l'étang et qui permet à l'étang d'être ce qu'il est. Voilà. Donc, tendez l'oreille, ne soyez pas désarçonné par ces mots d'être et d'étang qui vont revenir régulièrement. C'est à travers ces termes que nous pouvons questionner notre temps, le temps qu'on vit, et notamment son rapport au nombre, à la mathématisation de toutes choses, au calcul. Et c'est à cette aventure-là, cette aventure de la pensée, que je vous invite, donc entretien avec Vincent Josse.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors Vincent Josse, bonsoir, nous sommes à la maison Auguste Comte. Vincent Josse, est-ce que vous pouvez dire simplement comment vous êtes arrivé à la philosophie? Vous êtes professeur de mathématiques à Paris, et qu'est-ce qu'un mathématicien peut trouver comme intérêt à faire de la philosophie? Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, de la perte de temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler avant tout les mathématiques pour développer les sciences, comme le pensait d'ailleurs peut-être d'une certaine façon Auguste Comte? Est-ce qu'il y a encore de la place au XXIe siècle pour la métaphysique?
Eh bien, en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que quand j'étais en terminale, je suis tombé amoureux de la philosophie, et à ce moment-là, j'ai hésité sur mon parcours scolaire, entre des études de mathématiques et des études de philosophie. Finalement, j'ai choisi les études de mathématiques, mais j'ai toujours lu les philosophes, aimé cette lecture. Et donc, je ne suis pas un mathématicien qui est venu à la philosophie. Pour moi, les deux choses se sont vraiment développées de concert depuis le début. Et l'intérêt d'avoir cette double vision, c'est précisément que il me semble que les mathématiques sont en manque d'un fondement. Et je m'explique, parce que On parle souvent de la crise des fondements des mathématiques qui a eu lieu au début du XXe siècle. Mais c'est une crise interne aux mathématiques dans laquelle les mathématiques se sont refondées avec tout un travail axiomatique que l'on connaît. Mais elles sont néanmoins en manque d'un fondement toujours parce que la mathématique reste, malgré sa dimension qui semble abstraite pour le commun de quiconque voit des mathématiques, la mathématique reste un rapport à l'étang. Et quel rapport la mathématique entretient avec ce qui est, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être éclairci.
Merci Vincent. Il y a deux choses que vous dites et qui n'est peut-être pas facile d'aborder ou d'en comprendre les nuances pour des gens qui ne sont pas versés dans la philosophie. C'est pourquoi vous dites la mathématique et non pas les mathématiques. C'est peut-être que vous ne considérez pas ce champ comme une discipline scolaire, parce que d'habitude on dit les mathématiques. J'ai eu un bon professeur de mathématiques ou un mauvais professeur de mathématiques au pluriel. Et est-ce que la mathématique, c'est pas quelque chose justement qui va au-delà de ça? Et puis, vous utilisez ce terme technique des temps, hein, c'est un terme de la philosophie qui est repris des Grecs toon, mais finalement, ce mot-là, il fait parfois peur. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sémantiquement sur ces deux mots, celui de la mathématique et les temps ?
Concernant la mathématique, en fait, c'est une question intéressante parce que je dis au singulier la mathématique pour réunir en une unité le savoir mathématique. Or, il est vrai que ce savoir est divers et depuis les Grecs, il est pluriel. Et les mathématiques, c'est pas simplement une manière actuelle de parler. Déjà, pour les Grecs, les mathématiques sont quatre disciplines différentes qui sont l'arithmétique, la géométrie, mais aussi l'astronomie, mais l'astronomie au sens large, c'est-à-dire le rapport entre la Terre et le ciel, ce qui inclut ce que nous on appelle l'astrologie. Donc astrologie et astronomie ne font chez les Grecs qu'un seul savoir qu'on pourrait appeler astrosophie, si on voulait le nommer unitairement, et la musique. La musique est une des quatre disciplines mathématiques pour les Grecs. Donc il y a les mathématiques qui sont plurielles et qui se déploient comme un certain mode du savoir. Et donc j'emploie la mathématique pour l'unifier, mais le problème est précisément de chercher le principe de cette unification, et ce principe-là est très difficile à saisir. On a une piste avec le mot lui-même, parce que ta mathémata, les mathématiques en grec, ça vient d'un verbe, le verbe grec mantano, qui nomme un certain type d'apprentissage. La mathématique, c'est le déploiement d'un apprentissage dans lequel l'être humain découvre par ses propres forces quelque chose et est capable de se rendre compte à lui-même de ce qu'il découvre. Concernant les temps, ben justement, les temps a une dimension mathématique, puisque dans le rapport de tout être humain aux choses, il y a ce rapport fondamental au fait que les choses sont. Et par conséquent, il y a une reconduction à effectuer de la mathématique aux mathématiques, c'est-à-dire à la dimension mathématique de ce qui est, et donc il y a une fondamentation à effectuer de la mathématique dans la pensée de l'être.
Chemin de pensée, avec les neveux de René.
Alors justement, on peut peut-être prendre un peu de temps pour réfléchir à l'époque que nous vivons. Olivier Ray, que nous avons rencontré tout à l'heure ici à la maison Auguste Comte, est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Quand le monde s'est fait nombre ». Est-ce que notre époque, qui prend peut-être tout, mais peut-être que vous allez me corriger si vous n'êtes pas d'accord sur le tout, sur le plan quantitatif, est-ce que ça traduit pas un rapport faussé à ce que vous appelez la mathématique et dont vous nous dites que c'est une façon d'aborder les temps?
C'est délicat parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire en partant dans beaucoup de directions différentes. Parce que la question délicate qui s'ouvre tout de suite, c'est la question du rapport entre le monde grec d'un côté, qui est initiateur de beaucoup de choses dont nous sommes les héritiers, et de l'autre côté, le monde d'aujourd'hui, les temps nouveaux dans lesquels nous vivons, et dans lequel se déploie la technique. La technique et l'hégémonie des sciences, dans la question du savoir, la science en tant qu'elle devient normative pour le savoir, et donc cette hégémonie du quantitatif qui peut être dévastatrice. Et donc dans ce rapport entre les Grecs et nous, les choses changent complètement et surtout les choses qui gardent leur nom. Par exemple, l'arithmétique, arithmos qui veut dire nombre en grec, et bien c'est pas du tout évident que ce que nous nommons nombre soit la traduction de ce que les Grecs pensent comme arithmos. Je vais m'expliquer. Il y a, par exemple, chez Homère, un emploi de arithmos où arithmos est synonyme de logos. Et donc, on le retrouve dans la langue d'aujourd'hui, par exemple, avec le mot compte. Quand on dit quelque chose... faire le compte de quelque chose, en fait, ça veut dire aussi recueillir et faire tenir ensemble. Et quand on tient quelque chose et qu'on en fait un compte, qu'on tient ceci au compte de cela, y a cette question du rapport qui est fondamentale pour le logos. Or, logos, c'est aussi en grec la parole. Et Simone Veil, la philosophe Simone Veil, dit carrément dans ses cahiers, d'une manière abrupte, logos égale arithmos ou arithmos égale logos. Et quand les pythagoriciens disent tout est nombre, donc avec le mot arithmos, ils veulent peut-être dire que tout est logos et que donc aussi tout est parole. Et par conséquent, notre rapport au nombre... ne nous permet peut-être pas de penser spontanément ce que les Grecs pensent avec le mot arithmos. C'est pour ça que cette question du dialogue entre aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les temps nouveaux, et le monde grec, cette question du dialogue, pour que nous les comprenions aussi, et du coup pour que nous soyons capables de comprendre d'où nous venons et donc qui nous sommes, cette question est fondamentale.
Et dans ce rapport au nombre, donc vous indiquez une direction d'un travail à faire pour retrouver un rapport peut-être plus originel. Peut-être vous pourrez nous dire qu'est-ce qu'on pourrait espérer de ça, parce que évidemment, si un mathématicien se met à travailler dans cette direction, il sera peut-être... moins fort dans sa discipline, entre guillemets, parce que c'est pas ça qui va lui faire sans doute trouver des théorèmes, mais peut-être qu'il va trouver autre chose. Et la même chose vaut pour l'informatique. Mais j'ai envie de dire, est-ce que notre époque qui devient de plus en plus imprégnée par l'outil informatique, elle n'est pas justement dans une transformation encore nouvelle du sens du nombre, puisque le nombre devient codage, il devient capable de porter la voix, comme maintenant on est en train de le faire, l'image, tout, les relations humaines, et ainsi de suite. Donc est-ce que dans l'informatique, il n'y a pas encore un plus grand éloignement de ce que vous semblez nous indiquer du rapport grec au nombre ?
Ça, c'est une question vraiment passionnante et qui ouvre une perspective que je vais essayer d'entrouvrir, mais qui est très difficile à dire. Alors tout d'abord, moi, par exemple, je ne suis pas du tout mathématicien. Je ne me pense pas du tout mathématicien. Je suis professeur de mathématiques au lycée, mais pas du tout mathématicien. Je ne fais pas de recherche en mathématiques et je ne pense pas qu'un mathématicien ait besoin de philosophie pour faire des mathématiques. Pas du tout, du tout. C'est pas du tout ce que je disais. Je pense pas qu'une réflexion sur le fondement des mathématiques dans le sens que je dis aide en quoi que ce soit un mathématicien ou un informaticien à développer son travail. Concernant ce que vous dites sur le codage, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, en s'étant éloigné des Grecs et dans ce long cheminement, négativement, nous n'en avons jamais été aussi proches. Mais cette proximité apparaît ou n'apparaît que dans un sursaut que l'on doit avoir, enfin, que l'on peut avoir, et qui tout d'un coup montre les choses sous un tout autre angle. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, et là je vais peut-être faire référence à la pensée de Heidegger, au commencement grec se déploie une pensée de l'être. Et cette pensée de l'être disparaît dans le développement de la métaphysique. Et dans cette disparition de l'être dans laquelle nous nous trouvons, dans cet oubli, précisément, l'être vient se faire sentir comme jamais et se rappelle à nous. Et de la même manière, dans le codage informatique, peut-être que négativement, la pensée originale du nombre grec se rappelle à notre bon souvenir à condition que nous soyons capables de l'entendre.
Thank you.
Chemin de pensée sur RCF.
Nous sommes toujours avec Vincent Josse à la maison Auguste Comte et nous discutons du thème mathématiques et philosophie.
Simplement pour terminer, quand vous dites que l'être se rappelle à nous, en fait, il y a, j'entends deux choses, c'est-à-dire peut-être nous avons une volonté de se détourner de l'être et de cette question de l'être, ou est-ce qu'on a une volonté de la fuir ? On pourrait penser qu'on est attiré naturellement, mais peut-être que le mouvement de l'être humain, c'est de regarder dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça quand on vous dit « se rappelle à nous », c'est-à-dire « je fuis cet appel de l'être, mais lui se rappelle à moi », est-ce que c'est ça que vous voulez dire, primo ? Et deuxièmement, est-ce que ce rappel se fait sur un mode négatif, voire sur celui des catastrophes ?
Alors juste pour reprendre ce que vous disiez, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de fuir l'être. C'est pas du tout de l'ordre d'un vouloir, c'est au contraire de l'ordre d'un destin. C'est-à-dire que la manière dont la philosophie a été initiée et ensuite la manière dont l'histoire s'est développé avec le christianisme qui reprend à son compte des éléments de la philosophie grecque mais transplantés dans un tout autre cadre, puis avec Descartes et Galilée la question de la méthode et le développement d'un chemin qui est maintenant le chemin de la science. Pour l'homme, ça n'a pas été une volonté de fuir l'être. C'est un cours historial qui nous conduit là où nous en sommes et dans la situation où nous sommes, qui nous demande d'ouvrir les yeux sur l'ensemble de cette histoire et dans cette lucidité d'essayer, par un dialogue avec les Grecs, comment dire, c'est là où, vous voyez, ça devient difficile à dire, dans cette lucidité d'essayer d'être à nouveau pleinement humain.
Mille merci Vincent Josse. La maison Auguste Comte va bientôt fermer. Donc je vous donne rendez-vous. On aura l'occasion de continuer ces débats passionnants, très riches, très profonds et qui demandent un certain travail. Alors effectivement, la philosophie, elle peut parfois désarçonner et paraître pas facile d'abord. Mais si on travaille petit à petit, quelque chose se dégage. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné autant de pistes à creuser. Un dernier mot ?
Oui, j'ai conscience que là, dans l'impromptu du débat, j'ai dit des choses qui sont peut-être et très mal dites et très difficiles à saisir. Je demande aux auditeurs d'être bienveillants sur cette question. Voilà.
Merci beaucoup, Vincent.
Eh bien, merci de votre écoute. Nous étions à la maison Auguste Comte avec Vincent Josse. Merci à Antoine Honora pour la technique. Rendez-vous pour la prochaine émission de radio Les Neveux de René pour continuer à découvrir et à penser sur les chemins de la philosophie.